BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos experts du club ce soir, ils viennent de nous rejoindre. Sylvain Tiger, Loganadin, financier fondateur d'Ultra Bourse. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue, on est ravis de vous retrouver. Christian Bitton, fil rouge. Rebonsoir Christian.
Bonsoir.
Swiss Life Gestion Privée, professeur de finance à l'ESSEC. On est ravis de vous retrouver l'un et l'autre. On peut juste rebondir pour démarrer sur cette actualité souveraineté. Je sais que c'est un thème qui vous tient à cœur. En plus, Sylvain, la DGSI, donc les renseignements français, décide de rompre le contrat qui les liait à Palantir. Palantir à Wall Street perd 3,5% d'ailleurs aujourd'hui. Et ils choisissent un acteur français de la sécurité plutôt que Palantir. Parce qu'on se rend compte de nos dépendances aux Américains et qu'on ne peut pas complètement, forcément, toujours et en permanence faire confiance aux Américains. On choisit de rompre un contrat avec Palantir. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Effectivement, alors déjà, vous le soulignez très bien, Guillaume, le vrai enjeu pour nous, c'était notre souveraineté numérique, c'était de déléguer à un État tiers des informations aussi sensibles. Donc le fait que le gouvernement français ait opté justement pour une solution franco-français, c'est déjà un premier bon pas. Il convient de souligner une chose essentielle, c'est que les Américains, en réalité, ont toujours été dans le sens de leurs propres intérêts. Et donc, aujourd'hui, détenir l'infrastructure numérique, comme le font les États-Unis, c'est un enjeu et c'est un levier géopolitique majeur. Vous avez notamment le gouvernement américain qui a interdit l'exportation du modèle Fable 5 d'Anthropic il y a quelques jours. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, énormément de Français avaient utilisé Anthropic et Fable 5 pour justement commencer à faire tourner des modèles. Et voilà, on n'est pas propriétaire de notre infrastructure. La vraie question, c'est va-t-on réussir dans les années à venir à rattraper cet écart qu'il existe entre nos amis américains chinois et nous français de façon technique, donc de façon purement en termes de ressources et de capital humain. Je pense que nous avons le capital humain en France pour justement être une nation numérique et être une nation de recherche en intelligence artificielle. Malheureusement, il nous manque une chose, c'est l'infrastructure qu'est les data centers et de la puissance de calcul. Donc le vrai enjeu pour nous, ça va être d'investir massivement dans ces sujets-là, mais c'est des sujets qui, à mon avis, sont déjà peut-être un peu sur lesquels on est peut-être déjà un peu dépassé.
Oui, la DGSI donc rompt son contrat avec Palantir, c'est quand même un sacré coup de tonnerre, et remplace Palantir par un groupe français, ChapVision. Alors ChapVision détient plus de 70% d'un groupe coté en bourse. Le titre Coeris, c'est hyper spéculatif, attention, mais il se trouve que du coup Coeris, détenu par ce groupe choisi par la DGSI, gagne 15% en ce moment sur le marché parisien. On voit OVH aussi dans le cloud souverain français, bien progressé depuis hier, et Lighton aussi. Lighton, acteur de l'IA sécurisé, annonce avoir signé une quinzaine de contrats avec les institutions publiques françaises. On voit que l'État est en train de se déployer pour privilégier les acteurs français de l'intelligence artificielle. Lighton, très spéculatif aussi en bourse, Antoine, gagne 38% ce titre Lighton à l'instant.
Oui, mais il ne faut pas oublier non plus que Palantir a des liens avérés très très proches avec le pouvoir américain et surtout avec Donald Trump. Quand on veut fonder une stratégie basée sur la souveraineté, ça pose deux, trois petits problèmes. Et puis, se souvenir qu'il y a quelques mois, l'Allemagne nous a fait la blague de nous annoncer qu'ils allaient construire leur cloud souverain avec Amazon.
Ah oui. Cloud souverain allemand avec Amazon.
Amazon. Ils ont inventé ça. C'était pas mal. Mais voilà, non, chacun pour soi. Et c'est plutôt une excellente chose.
Christian, comment vous
En termes de capacité technique, Palantir est tout de même un des leaders mondiaux, techniquement parlant, de la cybersécurité. Donc, est-ce que c'est une bonne décision ? Alors, à ce moment-là, on se débarrasse de Google. Parce que même pour aller sur l'intelligence artificielle, on passe par Google, Alphabet. On se débarrasse, jetez tous vos Apple, je ne sais pas s'il y en a, parce que tout est dans le cloud. Sur Apple, on ne peut plus travailler sans passer par le cloud. Et tout le cloud est stocké sur le territoire américain. On s'en débarrasse alors, parce qu'ils peuvent y avoir facilement accès. Nous sommes déjà dépendants et les investissements vont être terriblement lourds à rattraper. Il y a effectivement beaucoup d'annonces autour du G7 en ce moment pour essayer d'investir et rattraper notre retard, mais on est déjà hyper dépendants. Et je ne sais pas, Guillaume, si vous avez des lunettes Meta, mais ça veut dire que tout ce que vous dites, tous les coups de téléphone que vous allez passer vont se retrouver dans des clouds et stockés déjà aux États-Unis. Donc, réaction politique très ferme, très forte, peut-être un peu tard.
Oui, et les data centers qu'on attend,
ils sont pas là,
espère,
les data centers.
Ils sont pas encore là, et quand ils seront là, ils seront
peut-être sur la Lune ou Mars d'ailleurs. Oui. SpaceX, on va reparler de SpaceX. Oui.
Voilà. Ils seront pour nourrir l'IA américaine, ou on espère peut-être aussi l'IA française. Il y a Mistral qu'on n'a pas encore cité là. Et c'est vrai, c'est quand même l'autre coup de tonnerre dans la tech et qui nous fait prendre conscience des enjeux politiques autour de l'IA et de la tech. C'est qu'Anthropic ne pourra pas donner l'accès aux non-américains à ses meilleures intelligences artificielles. Ça, c'est une vraie prise de conscience qu'on sent venir même à un an de la présidence potentiel ici en France. On voit plein de candidats nous dire attention, oh là là, ça c'est le signe qu'on est trop dépendant des Américains. Il faut absolument qu'on ne dépende pas de notre accès aux meilleures IA d'Anthropic ou d'autres. Voilà.
Oui, enfin, Anthropic a même été obligé d'interdire l'accès à tout le monde parce que comment vérifier que quelqu'un du territoire américain avec une adresse IP ou un VPN américain soit bien de nationalité américaine. Donc vous savez que le vendredi dernier, ils ont tout fermé. C'est impossible, sinon ils se mettaient hors la loi par rapport au décret fédéral qui venait d'être pris. Pas facile à gérer, mais inquiétant. Ça voudrait dire que l'intelligence artificielle fait de tels progrès qu'on va se retrouver dans Terminator 4 si ça continue. Ça fait un peu peur.
Mais alors du coup, ça limite peut-être le potentiel de la thématique en bourse, parce qu'on se rend compte aussi du coup, alors qu'Anthropic doit s'introduire en bourse, que l'État américain d'un seul coup peut limiter le marché adressable en disant non, mais vos IA elles sont trop fortes, vous en limitez l'accès aux seuls Américains. L'État américain pourrait très bien entrer au capital d'un certain nombre d'acteurs de la tech américaine, donc peut-être un peu moins de potentiel à venir en bourse. Pour Anthropic qui veut s'introduire, c'est peut-être pas la meilleure publicité, la meilleure communication en ce moment, Sylvain.
C'est un vrai enjeu en réalité, hein, parce que aujourd'hui l'IA est un levier géopolitique majeur, c'est-à-dire que vous avez une technologie, une puissance qui peut radicalement changer en fait le destin d'une communauté de personnes. Ils ont coupé l'accès aujourd'hui à la base aux non-américains aujourd'hui à tout le monde. Reste à savoir comment vont répondre les Chinois. Parce que vous savez, les Chinois ont une stratégie assez différente. On l'avait vu chez vous, Guillaume, lors d'une précédente émission avec un ami de chez BNP Paribas, qui disait justement que les Chinois étaient dans une logique de dumping au niveau de l'intelligence artificielle. Ils collectaient de la donnée dans l'espoir d'avoir un ordinateur quantique qui permettrait ensuite d'utiliser toute la donnée collectée mondiale et ensuite de voir ce qu'ils en font. Donc les Américains sont interventionnistes. On en revient toujours à la même thèse, comme dans l'économie, faut-il être interventionniste, stopper les échanges commerciaux ou faut-il justement les ouvrir ? Bon, écoutez, je pense que là c'est une première action politique du gouvernement Trump, à voir si ça se concrétise, parce que vous le savez très bien, Trump est versatile, aujourd'hui il coupe l'accès à Anthropic. Qui sait ce qui se passera dans 3 semaines ou dans 1 mois, son gouvernement peut très bien faire volte-face, donc je pense que le dossier n'est pas terminé et je pense qu'effectivement il y aura, à mon avis, des sursauts.
Oui. Pour les investissements en bourse, je pense qu'au contraire, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça prend une telle importance qu'il faut même que le politique commence à freiner ses développements. Donc, par rapport aux questions d'il y a à peu près un an et demi, est-ce que c'est pas du mirage? Est-ce que c'est n'importe quoi? Est-ce que c'est du Google amélioré? Non, il semblerait que vraiment, ça permette d'avancer vite, très vite, trop vite, disent maintenant les politiques. Donc, il y a bien une réalité économique, d'où cet engouement en bourse qui n'est pas prêt de s'arrêter de toute façon. Oui. S'il n'y a pas que le logiciel, il y a tout de même tout ce qui est le semi-conducteurs, la fabrication, et pas que les semi-conducteurs, les super puces de Nvidia. Il y a tout ce qu'il y a derrière, parce que pour y accéder, on utilise des instruments simples, des micro-ordinateurs, des téléphones qui utilisent des puces normales et qui ont besoin de ces accès. Alors là, qu'est-ce que ça se développe? Et les bénéfices, TSMC, Samsung Electronics, vous avez vu les résultats, la croissance, et ça y est, on est dans le concret, on est sur un vrai développement.
Et alors vous citiez Nvidia, annonce lever des obligations à hauteur de 25 milliards de dollars, c'est-à-dire que vous pouvez investir, Antoine, on réussit tout à l'heure ensemble on peut investir en actions sur Nvidia et on sait que ça a porté ses fruits ces dernières années, mais on peut aussi se faire plaisir à travers les obligations. Comme ça, si vous deviez choisir Nvidia, qui a encore beaucoup de croissance devant lui, vous choisiriez quoi? Les actions au cours actuel ou plutôt aller les obligations puisqu'ils vont en émettre à gogo à 25 milliards de dollars? Antoine?
Moi, je prendrais bien un paquet d'actions Nvidia, mais je prendrais bien aussi un paquet d'obligations et c'est du 5 ans à 5,5.
À 5,5,
c'est bien.
C'est pas mal, ouais.
C'est du bon rendement.
C'est pas mal.
Il se finance pas cher quand même.
Il se finance à pas cher, ce que j'allais dire. 5,5, c'est bien, gratuit, mais à ce moment-là, par rapport au risque, je préfère prendre l'action.
Effectivement,
aussi.
C'est quasiment le taux des obligations d'État. Quoi, donc,
oui, c'est
un bon
génial.
Deal pour Nvidia. Ça, c'est
pas génial.
Ouais, c'est pas,
on se verra tout à l'heure pour quelques conseils que nous n'avons pas le droit de prodiguer.
Pour répondre à votre question, Guillaume, c'est une très bonne affaire pour Nvidia. Elle se finance quasiment au prix des obligations d'État américaines. Ses actions sont sursouscrites, donc à mon avis, s'échangent à des multiples. Donc, en termes de stratégie d'entreprise, c'est excellent. Vous financez à 5,5, les obligations d'État vont payer 4,5, 5, c'est très bien. Du côté investisseur, je pense qu'il y a quand même des choses à aller voir sur d'autres thématiques.
Ah, on parlera de SpaceX dans un instant, bien sûr. On parlera de la Fed, je vous rassure aussi, mais il semble qu'aujourd'hui, la tech soit presque plus importante que la Fed et que le statu quo attendu demain de la Réserve fédérale américaine. Mais on va quand même en parler de la Fed dans un instant. Alors, on se demandait aussi ces dernières heures si le fait que l'État fédéral américain intervienne sur l'accès à l'IA américaine va pas rendre l'IA chinoise peut-être plus attractive. Ben voilà, on n'a plus accès, comme on le souhaite, à l'IA américaine, autant se tourner vers les Chinois qui sont quasiment aussi bons que les Américains en matière d'IA. Et hier, on se disait, oui, mais qui voudra laisser ces données au Parti communiste chinois? Ben, un de nos auditeurs, il s'appelle Martin, il m'a écrit sur LinkedIn, Martin, il me dit, non, là-dessus, vous vous trompez, Guillaume. Sur DeepSeek, par exemple, il est possible, bien sûr, d'utiliser DeepSeek, sauf que ce sont des modèles, les modèles chinois, il y a aussi Qwen de Alibaba, ce sont des modèles open source. Il est donc possible de les télécharger, de les faire tourner sur ses propres serveurs d'entreprise sans laisser ces infos aux autorités chinoises. Donc, on n'est pas obligé, quand on passe par l'IA chinoise, comme ça, de se dire « Ah, on va tout laisser, ils vont avoir accès à toutes mes données ». Non, ça peut tourner sur vos propres serveurs, même si c'est l'IA chinoise, Sylvain.
Voilà. Moi, je pense que Martin, bon, c'est une très bonne remarque, mais l'utilisation que fait Martin, justement, de DeepSeek ne va pas forcément être celle de l'intégralité des personnes. Enfin, je pense que la plupart des gens qui utilisent l'IA ne vont pas forcément faire cette logistique d'aller télécharger le code open source, de louer un serveur, et puis voilà.
Mais les entreprises vont se poser cette question quand même.
Peuvent se poser ces questions, mais je pense qu'en réalité, comme vous le dites, c'est un peu comme, vous savez, ce qui s'était passé à Constantinople au 15e siècle, quand on bloque, en fait, un port, au final, bah, c'est Amsterdam qui s'est développé. Hein, bah, c'est un peu la même chose. Les Américains bloquent l'intelligence artificielle, le flux de demandes va se redéployer du côté chinois. Donc, je pense que les Américains vont assez rapidement reconsidérer leur stratégie. C'est un peu ce qu'ils ont fait en Iran. Hein. Ils ont tenté des choses, ça ne s'est pas passé, ils sont revenus en arrière. Je pense que sur ce dossier intelligence artificielle, ils vont à mon avis revenir sur leur stratégie.
Et je pense que pour les investissements financiers, on va peut-être enfin revenir sur la Chine, qui est tout de même un marché relativement en retard depuis le début de l'année. C'est clair, parce qu'on s'interroge sur les statistiques chinoises, sur les problèmes politiques, sur leur dépendance par rapport au pétrole du Golfe. Mais finalement, il y a donc maintenant de bonnes affaires en termes de valorisation à faire sur le marché chinois, qui ne se cantonne pas aux voitures électriques BYD. Voilà. On trouve tout de même un marché profond qui lui aussi est en retard, comme le marché japonais, qui n'a pas la performance du marché japonais.
Alors, je comprends, mais vous avez vu les ventes au détail en Chine, là, au mois de mai, les ventes au détail en Chine reculent pour la première fois depuis 2022.
Oui. Ouais. Et ben voilà, c'est une des raisons qui fait que le marché chinois a baissé dans les allocations de beaucoup de stratégies et de recommandations, principalement aux États-Unis, la politique et puis l'activité domestique chinoise. On sait que la population chinoise vieillit, croit moins que la population indienne et surtout qu'elle doit subir un choc, une crise du logement terrifiante. Hein, l'effondrement du logement, les immeubles neufs qui sont détruits. Donc une crise de l'immobilier, ça fait très très mal et ça dure encore et donc ça pèse aujourd'hui sur la consommation domestique.
Les investissements immobiliers dans les grandes villes en Chine au mois de mai sont à un plus bas de 2020 pour le coup. Voilà, ça nous ramène au Covid.
Oui, mais pour les investissements financiers, si on va chercher la technologie ou l'industrie chinoise, là les chiffres sont excellent. Ça fait partie d'ailleurs des bonnes nouvelles pour l'activité cette année, pour l'activité mondiale, parce que en même temps que ce chiffre que tout le monde commande de moins 0,2, on a un autre chiffre qui est sorti en même temps ce matin, qui est la production industrielle chinoise, qui monte encore. Elle est à plus 4,5% sur un an. C'est pas mal ça. Ça veut donc dire que l'objectif de 4,5-5%, qui sera fondamental pour que la croissance économique tienne cette année, pas avec ce qui va se passer en zone euro, avec le coup de la crise qu'on a déjà subi depuis 3 mois, qu'on y arriverait si elle n'avait pas des moteurs. Et les moteurs s'appellent encore États-Unis, mais surtout Chine, qui a été dévalorisée dans la plupart des pronostics à cause de ce problème de logement et d'économie domestique.
Alors les mauvais chiffres chinois du jour, ils se traduisent par une sous-performance d'un indice boursier en Europe, c'est le DAX. Bah oui, l'Allemagne et la Chine, il y a quand même des liens toujours, hein, des dépendances. Le DAX ne gagne que 0,1%, alors que l'Eurostock 50 gagne 0,5% et le CAC plus 0,7%. Sylvain, quel regard vous portez sur tout cela et sur, on parlera de SpaceX, hein, promis dans un instant, sur l'Europe quoi, qui progresse, c'est vrai. On profite en plus d'une détente du baril de pétrole. Le baril de Brent repasse sous les $80. On est ravis. Sauf que l'Europe en profite moins que Wall Street. C'est ça qui est fou. C'est quand le pétrole montait, on en souffrait plus ici en Europe. Mmh. Et quand le pétrole baisse, les Américains en profitent plus que nous. Comment ça se fait ?
Le double problème, c'est qu'ils ont un indice qui est aujourd'hui effectivement surpondéré en valeur d'intelligence artificielle. Nous n'en avons pas. Donc, structurellement, nous sommes des indices d'industrie pharmaceutique où on est un peu du monde d'avant et on en souffre. D'accord, on est un petit peu comme à l'époque, vous savez, des compagnies est-indiennes là qui où tout le monde investissait sur les bateaux pour aller découvrir l'Inde et l'Amérique du Sud. Bah, c'est un petit peu ça. On est l'ancien monde. La valeur a migré justement sur ces nouvelles industries. Et comme nos indices ne se sont pas recomposés, en fait, le vrai enjeu il est là du CAC 40 et du DAX, c'est d'intégrer des entreprises de haute technologie dans l'indice pour essayer d'attirer des capitaux. Mais comme on n'a pas ces champions nationaux, que ce soit en France ou en Allemagne, bah, on reste avec des indices composé de valeurs du monde d'avant. Et donc, les capitaux, que ce soit européens ou même mondiaux, vont justement vers des valeurs que vous citiez juste avant, comme SpaceX. Donc, le vrai enjeu pour le DAX, il ne montera pas, et malheureusement, comme le CAC 40, il risque de traîner la patte encore longtemps. parce que structurellement, ces indices ne sont pas composés des entreprises et des valeurs qui feront le monde de demain, et c'est bien ça le vrai enjeu pour nous.
Quand c'est la guerre, les indices européens sont en baisse parce qu'on subit le pétrole cher en Europe. Quand c'est la paix, les indices américains surperforment aussi. Pile, on perd, face, ils gagnent. C'est l'un de nos auditeurs, Boulet Bertres, qui le résume comme ça. Vous n'avez pas l'air
complètement d'accord. Je modérerai un tout petit peu c'est cette approche. D'abord, oui. Il y a beaucoup plus d'argent aux États-Unis. C'est absolument incroyable. Les flux d'épargne. SpaceX, la semaine d'avant, c'était quelle augmentation de capital phénoménale. Alphabet, enfin, Google qui récupère ses par paquet de 80 milliards de dollars à chaque fois. Il y aura effectivement l'émission obligataire de 25 milliards de dollars
de Nvidia.
C'est énorme, les mouvements de capitaux vers les actions. Nous n'avons pas, et particulièrement en France, encore cette habitude de déplacer autant d'épargne vers les marchés actions. Et puis surtout, pour le marché européen, il est affecté par des poids dans les indices où il y a plus de valeurs cycliques, il y a plus de valeurs de luxe. Pour le CAC 40 notamment, il y a moins de valeurs technologique, mais il y a tout de même la progression des bénéfices attendus cette année qui est pas mauvaise, justement sur ces valeurs traditionnelles ou cycliques ou d'approche qui ne sont pas de la nouvelle économie ou moins de la nouvelle économie. Oui. La progression attendue des bénéfices révisée encore très récemment, même depuis le début du conflit, c'est tout de même du plus 15%. Pour les valeurs strictement de la zone euro, on se rapproche même de plus 18%.
Oui.
Et c'est moins qu'aux États-Unis, mais l'année dernière, finalement, les résultats, la progression des PPA, ça a été 1%.
Oui, et aux États-Unis,
donc là, on a un rebond.
Aux États-Unis, l'essentiel de la hausse des bénéfices vient des valeurs tech. Si
très
vous
concentré.
Retirez les valeurs tech, c'est beaucoup moins brillant pour le coup. Donc l'Europe n'a pas à
c'est pas si mal
rougir,
que ça.
Quoi.
Il ne faut pas sous-pondérer. Il ne faut pas dire je vends l'Europe sur ce principe-là. Parce que si on regarde les boîtes une par une, il y a un redressement, presque un rebond des bénéfices. Bien que la croissance économique soit atone.
Et si la guerre véritablement prend fin en Iran et que le pétrole continue de baisser, là, ce serait beaucoup de potentiel et hausse supplémentaire pour l'Europe ou pas? Parce qu'on n'arrête pas de dire que l'Europe est plus exposée que les États-Unis. Est-ce que, du coup, ça ferait un bien fou à notre économie?
Oui, parce que le pétrole, on l'achète à l'extérieur. Donc, quand on calcule un PIB, un produit intérieur brut, ce qu'on achète à l'extérieur, ça sort, c'est de la consommation en moins, contrairement aux États-Unis qui l'achètent en intérieur. Mmh. Donc effectivement, tout ce qu'on dépense en pétrole en ce moment d'importation, c'est un surcoût qui diminue notre consommation, donc notre PIB. Et les calculs ont été justes. Si on revient dans les clous, c'est-à-dire vers 60-70 dollars le baril, ça aurait été un pic et non un choc. D'ailleurs, ce matin, M. Lescure l'a annoncé, c'est le temps de la relance, c'est le temps des cerises, voilà. Peut-être un peu trop optimiste, il faut faire attention, là en ce moment, les marchés achètent beaucoup la rumeur. Attendons la nouvelle d'ici 24 heures, le contenu de ces deux pages de l'accord, la signature effective de l'accord et surtout, les 60 jours en fait qui vont encore s'écouler avant qu'une vraie paix totale soit signée et son contenu.
Et est-ce que le détroit d'Ormuz sera rouvert avec ou sans péage? On entend parler d'un possible péage. Certains disent même, finalement, mieux vaut un péage, comme ça pérennise la réouverture que pas de péage, voilà. Certains pensent même que le pétrole sera moins cher avec un péage, parce que ça pérenniserait la réouverture. L'Iran aurait intérêt à percevoir l'argent, donc laisser ouvert le détroit, et à l'inverse, sans péage, le pétrole serait plus cher parce qu'il y aurait plus d'aléas. Sylvain.
Alors à ce moment-là, mettons un péage partout, comme ça tout sera moins cher.
Mais oui.
Non, je pense que effectivement, moi je suis comme je suis d'accord avec vous. Il faut j'attends de voir dans le temps long, parce qu'effectivement ce type de stratégie depuis le début du conflit, j'apaise, c'est la fin de la guerre, je relance des missiles, je referme le détroit, c'est un petit peu la mécanique standard qu'on a vue. Donc attendons déjà de voir le contenu en fait de cet accord, attendons de voir les 60 jours. Et de toute façon, par contre, hein, en revanche, moi je suis pas d'accord, si on met un péage sur le détroit d'Ormuz, dans tous les cas, ça va augmenter le prix de l'énergie. C'est une évidence, donc ça va se répercuter quelque part, donc sur le prix des produits finaux chez nous. Il y aura deux solutions, soit ce péage est beaucoup trop cher, auquel cas l'énergie va prendre un autre chemin, hein, d'accord, quitte à aller passer par le cap de Bonne-Espérance pour remonter chez nous, donc ça veut dire plus long, plus cher, mais peut-être moins cher que le péage. Soit, voilà, il y aura, à mon avis, un choix qui va être fait, mais ça ne sera jamais moins cher avec un péage. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette hypothèse.
Ouais. On poursuit nos échanges, on est à 11 minutes de la clôture, on accélère dans la dernière ligne droite de cette séance. Le CAC gagne 0,8%, 8447 points. Alors, il y a des champions français qui montrent l'étendue de leur talent en ce moment, qui savent saisir les opportunités de l'IA. C'est le cas de Schneider Electric, très présent dans les data centers, notamment Schneider Electric. Le titre gagne encore 2,5% ce soir. Bien orienté aussi Legrand, dans la même thématique, en hausse de 2% aussi. Et puis on a Safran dans la défense, en hausse de 2,3%. En repli en revanche, à ST Micro Microelectronics à cause d'une émission obligataire qui a été annoncée. Bon, ce titre perd 4% aujourd'hui. On a Renault aussi en repli après la belle séance d'hier, moins 3, comme Stellantis aussi qui recule d'1,7%. On en parle ce soir avec nos deux experts, Sylvain Tiger, Logan Adin et Christian Bito. La fête demain, on va parler SpaceX dans un instant. Juste la fête demain soir, d'un mot en une minute, on attend un statu quo. Pas évident quand même pour Kevin Warsh, ce sera sa première conférence de presse, alors que l'inflation accélère aux États-Unis, mais que le pétrole recule nettement. Il va falloir vraiment justifier ce statu quo, ou cette baisse, ou cette hausse de taux. Enfin, quel que soit le choix de la Fed, il sera pas facile à justifier. Si le... Christian.
Moi, je parie pour un 0,15. 0,25 serait peut-être un tout petit peu trop. Je l'ai dit tout à l'heure, 0,25, ça voudrait dire que la Fed fait de la politique, c'est pas le moment, parce qu'effectivement, les midterms arrivent, il y a les 250 ans, il y a trop d'actualités politiques. Ne rien faire ne serait pas cohérent par rapport à une inflation, la CPI est à 4,2. Beaucoup plus important, maintenant je regarde ça de très très près, ce sont les prix à la production. C'est-à-dire les prix des produits semi-finis qui sortent des industries américaines, on en est déjà à plus 6,5% sur un an glissant. Faut se rappeler qu'en 2022, les prix à la production en Europe, par exemple, qui a été la première touchée par l'Ukraine-Russie, les prix à la production étaient montés à plus 40%. D'accord ? Et là, d'un coup, on vient d'effectuer ce bond. Ça commence aux États-Unis, puis on en parlera certainement tout à l'heure, en zone euro, plus 4,9%. Donc ça y est, les industries commencent à répercuter ces hausses de prix, moins qu'en 2022, mais ça commence sévèrement. Donc il est possible qu'il y ait une petite intervention, mais petite.
Petite hausse de taux.
Oui, petite hausse de taux.
De 15 points de base, pas 25, 15 points de base. Oui.
Tout est dans la quantité.
On est tellement habitué aux 25 ou 50 que ça nous fait bizarre.
Un truc très simple, je vous ai parlé de 2022 qui est l'exemple de la dernière sévérité qui a cassé en fait les marchés financiers de hausse des taux des banques centrales. C'est vraiment 2022, ils sont allés fort. Les taux sont passés pour la Fed de 0,25% à 4,75%. Ça, c'est pas du 0,15, c'était la BCE de 0 à 4%. C'était vraiment absolument radical. Mais, grosse différence, quand on regarde 2022, le baril de pétrole était passé de $70 à $115, comme nous là en ce moment. Mais ça avait duré, pour qu'il revienne à $70 le baril, ça avait duré 8 mois en 2022. Aujourd'hui, si vraiment on considère que l'accord est signé, on est revenu en dessous de $80. Et donc on a fait un pic sur les cours du baril de pétrole en passant de $70 à $110 et en revenant à $78 tout à l'heure. En fait, qui n'a duré que 3 mois et demi. Donc, c'est un véritable pic. Ça n'a peut-être pas eu le temps de se propager en effet de second tour.
On aurait une désinflation aussi violente que l'a été
ça pourrait aller beaucoup plus vite. En tout cas, pour le moment, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que ça se propage ? Oui, les prix à l'industrie. Maintenant, ce sera les salaires.
Donc, c'est original, hein. Vous attendez, pourquoi pas, une hausse de taux surprise de la Fed, mais de seulement 15 points de base pour dire on y va, mais sans ouvrir un cycle. Ouais. Quoi. Ouais. Parce que ça ferait un peu petit joueur, quand même.
Oui, mais pas de réponse serait aussi mauvais que si Mme Lagarde avait dit « je passe mon tour ».
Ah oui, d'accord.
Les marchés l'attendaient, vous avez bien vu, les taux de la BCE montent, les marchés obligataires, les taux ne bougent pas, ils ont même baissé puisque le pétrole a rebaissé. Ouais. Contrairement au Japon, ce matin, les taux montent de 0,10, les taux longs montent. On n'est pas du tout dans la même approche politique des banques centrales aux États-Unis.
Sylvain, vous partagez l'idée, pourquoi pas une hausse de taux surprise demain, mais seulement 15 points de base pour pas trop paniquer.
Moi, je pense que ça ne serait pas une bonne chose, en fait, pour le banquier central américain qui est une Warsh de monter les taux pour une raison qui est simple, c'est que sur les origines de cette inflation, c'est une inflation due à une perturbation des chaînes logistiques et non pas forcément due à une augmentation soudaine de la consommation, auquel cas l'outil qu'est la montée de taux ne serait pas forcément une réponse adaptée dans ce contexte particulier. Je trouve d'ailleurs que la montée des taux de Christine Lagarde n'est pas non plus une réponse appropriée. Elle va monter les taux dans un environnement où la consommation est déjà en berne, en espérant que l'inflation baisse. Mais l'inflation va forcément se propager en Europe d'ici la rentrée parce qu'il y a une perturbation des chaînes logistiques. Vous parliez du pétrole qui s'échange à 80-90 $ le baril. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché off, enfin voilà, hein, de gré à gré, le vrai prix, c'est 150-170 $ le baril. Donc il y a un marché spot et il y a un marché réel auquel s'échange le pétrole. Donc c'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec la réponse du banquier central qui veut combattre l'inflation en montant les taux. Dans ce contexte particulier, ça n'est pas l'outil adapté.
Ah, c'est dit. Ouais. C'est demain, qu'on saura.
Oui, parce que 0,25 ou 0,15, c'est une non-réponse. Oui, ça ne fait rien du tout.
Réponse politique.
Voilà. Si ça avait été une hausse des taux de 1%, enfin...
Il faudra bien profiter de la conférence de presse parce qu'il n'y en aura peut-être pas avant encore longtemps. Hein. Il veut raréfier, limiter le nombre de conférences de presse et rendre moins automatique. Bon, demain soir, il n'y échappera pas pour sa première, la première décision politique monétaire de son ère. Kevin Warsh, donc, à suivre demain soir à partir de 20h30 cette conférence de presse. SpaceX, on y vient, gagne en ce moment sur le marché américain 10%. Allez, on est à plus 50% depuis l'introduction en bourse vendredi, en à peine 3 jours. Tout à l'heure, SpaceX est passé en capitalisation devant Amazon et devant Microsoft également, devenant la quatrième capi mondiale. À ce rythme de hausse, si la hausse se poursuit au même rythme, dans une semaine, Sylvain, SpaceX deviendra la première capi mondiale devant Nvidia.
Écoutez, c'est un peu la tulipomanie, hein. Enfin, c'est un peu la même chose. Bon, on va passer encore une fois pour les Cassandres, voilà, de la finance française. Mais effectivement, là, il y a un vrai engouement. Tant mieux. C'est une valeur qui a été très bien promue par toutes les banques d'affaires, par tous les intermédiaires financiers. J'ai rien à redire, mais effectivement, on a un vrai effet d'engouement. Ça va forcément retomber.
Je sais pas. Ça a été bien monté, hein. Il y a une architecture financière quand même.
Non, c'est bien monté. Ce marché monte, enfin, est nourri d'optimisme. Tant que ça tient, tant mieux. Moi, je pense que c'est un peu le jeu des chaises musicales, Guillaume. Si vous êtes dedans, que vous avez gagné 50% en 2-3 jours, voire une semaine, bah, réfléchissez de façon stratégique. Le TRI d'un fonds de private equity, c'est 15-17% en annualisé. Bon, là, vous faites 50% en 10 jours, c'est super. Ouais. Annualisez votre rendement et réfléchissez en vous disant, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup quand même de sortir maintenant? Après, chacun fera comme il veut, mais voilà, d'un point de vue strictement logique, 50% en 10 jours, tant mieux. Prenez vos bénéfices et
Christian, profitez-en. Comment vous regardez cette OVNI?
Oui, c'était une belle IPO, mais il y avait une telle demande, en fait, qu'il y a aussi tout de même en ce moment le déversement de ceux qui n'ont pas été servis et qui en voulaient parce qu'ils ont des contraintes institutionnelles, parce qu'ils craignent que ça devienne une valeur majeure dans les différents indices, donc qui prennent leur position à n'importe quel prix. La hausse est absolument phénoménale. Je pense pas que ça se casse la figure, mais ça va se calmer.
Ça va finir par se calmer quand
ça
même.
Va se calmer.
Il y aura peut-être un petit creux quand
non,
même.
Non, il faut attendre ensuite les premières annonces de résultats, d'autres éléments. Ouais, oui. Les mouvements de taux d'intérêt, mais là, ça va simplement se calmer parce qu'il y avait un carnet d'ordres à déverser qui n'a pas été servi lors de l'IPO initial.
C'est un analyste qui s'appelle Lepogam qui écrit « Pendant 50 ans, on nous a vendu un futur rétréci. Moins d'énergie, moins d'enfants, moins d'ambition. Gérer le déclin proprement. » Et là, d'un coup, le plus gros actif financier du monde est un pari sur l'inverse. L'abondance, l'expansion et l'aventure. Le pessimisme avec SpaceX, le pessimiste, ajoute cet analyste, vient de passer en position vendeuse sur lui-même. Christian.
Bon, il conserve ses propos.
Sylvain.
Non, je suis d'accord, c'est un peu la découverte, en fait, si vous voulez, de la Nouvelle-Amérique ou de la Nouvelle-Inde à l'époque, là, Christophe Colomb. Hein, que là, le monde étant un univers fini que nous maîtrisons, ils partent à la découverte d'un nouvel univers pour découvrir de nouveaux matériaux, de nouvelles sources de richesses, de valeurs. Enfin,
faire des médicaments dans l'espace.
Oui, c'est l'exploration vers un nouveau monde. Et en fait, ça attire de la même façon que, vous savez, les compagnies néerlandaises avaient créé la bourse pour financer justement ces expéditions et la société privée avait été créée justement dans ce but-là. Là, on est c'est un peu la continuité de notre époque. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, Guillaume, Milei en Argentine a créé un cadre juridique pour des sociétés gérées par l'IA. Voilà, on vit dans un monde où l'IA pourra créer sa petite société privée, investir dans SpaceX. Enfin, on vit un monde absolument fabuleux et je pense que c'est effectivement, comme il le dit, ça va être intéressant.
Et même quand il s'agira de publier ses résultats trimestriels, SpaceX ne le fera pas comme les autres. SpaceX annonce qu'il communiquera son information réglementée, donc ses résultats, uniquement sur son site internet et sur X. Il va donc se passer des diffuseurs traditionnels de communiqués de presse comme Business Wire, PR News Wire ou d'autres. Voilà, il faudra, pour avoir accès aux résultats de SpaceX, aller sur la page SpaceX ou sur le fil X de SpaceX. Donc, toujours passer par Elon Musk. Ce sera une façon de verrouiller aussi cette communication, Christian.
C'est normal. Non, mais c'est normal. Là, il tient la totalité de son truc. Et pour commenter le jour où les résultats sortiront, ne comptez pas sur l'IA. Nous serons toujours là, Guillaume.
Exactement. Et nous aussi, pour l'analyse humaine de SpaceX, on en aura besoin.